9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. On va revenir sur les frappes massives opérées par les Russes sur les villes ukrainiennes en début de semaine avec le général François Chauvency. Je recevrai ensuite le politologue Olivier Roy qui publie L'aplatissement du monde. Il va nous expliquer ce qu'il y a de commun, d'après lui, à toutes les polémiques qui polarisent aujourd'hui la société française sur la sexualité, sur le genre, sur le racisme ou la laïcité. Et l'on terminera l'émission avec Catherine Millet, la directrice d'Art Presse, qui raconte dans son nouveau livre Commencement, les débuts en France de l'art contemporain, c'était il y a 50 ans.
Europe 1.
François Chauvency, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes général dans l'armée de terre, vous avez servi en ex-Yougoslavie, au Kosovo, aux Émirats arabes unis, au Liban, en Côte d'Ivoire. Vous avez quitté le service actif en 2014, aujourd'hui vous êtes consultant sur LCI et vous animez le blog Défense et Sécurité sur le site Théâtre Umbelli. Alors, les grandes villes d'Ukraine ont été la cible en début de semaine de frappes qualifiées par le Kremlin de massives, d'une ampleur inégalée, a-t-on dit ici, un déluge de missiles, de roquettes et de drones kamikazes ciblant les populations civiles. Or, on ne compte que 19 morts. C'est 19 de trop, bien entendu. Mais si l'on regarde ça d'un point de vue strictement militaire, 19 morts, c'est moins que le bilan du dernier attentat kamikaze à Kaboul. Comment expliquez-vous que des frappes massives fassent moins de victimes qu'un type tout seul avec une ceinture d'explosifs?
Je crois que tout État, aujourd'hui, quand il est soumis à une agression, ne veut pas à la fois effrayer sa population en disant qu'il y a beaucoup de pertes. D'autre part, il veut aussi dire à l'agresseur, vous voyez, ce que vous faites là ne sert à rien, puisque de toute façon, il n'y a pas de pertes chez nous, donc ce que vous avez fait n'a aucun sens. Et puis, à des moments aussi, peut-être que la vérité, elle est là, peut-être qu'il y a effectivement eu très peu de morts. Voilà, donc les trois hypothèses, en gros, qu'on pourrait retenir sur ces frappes.
On nous a dit que 120 missiles avaient été tirés par les Russes. Kiev dit en avoir abattu la moitié. Mais tout de même, plus d'une cinquantaine ont atteint leur cible. Donc, effectivement, les seules explications, c'est soit les Ukrainiens ne veulent pas dire combien il y a de morts réellement, soit les Russes sont mauvais.
Oui, alors la question qui se pose pour nous, c'est de savoir où est la vérité. Et vous savez bien que une des premières victimes de toute guerre, c'est la vérité. Et que je crois que dans ce contexte de guerre psychologique et de guerre de l'information que nous vivons au quotidien depuis 7 mois entre l'Ukraine et la Russie, la question de la réalité des destructions et la réalité des morts sont devenus deux événements, je dirais deux informations, pratiquement je dirais secret défense, qui sont utilisées en fonction des événements. Avec une remarque quand même, c'est que les Russes de ce côté-ci s'expriment encore beaucoup moins, donc on n'a pas vraiment d'éléments. En revanche, du côté ukrainien, tous les jours, ou presque, on a quand même des retours sur ce qui s'est passé. Donc maintenant, est-ce que les Russes ont été mauvais quand ils frappent? On reprend les 7 mois, écoutons ce qu'a dit le gouvernement ukrainien suite à ces frappes. Oui, ces immeubles étaient habités par des civils. Oui, là où les Russes ont frappé, il n'y avait rien. Là, c'était une usine désaffectée, non pas une usine d'armement. Et de l'autre côté, on avait de temps en temps une réflexion, un commentaire, pardon, russe qui disait « Oui, là, il y avait des soldats qui étaient embusqués, là, il y avait effectivement une usine d'armement. » Donc, on est bien dans la propagande de guerre. Et la vérité, on ne la voit pas.
L'armement dont on dispose aujourd'hui est bien plus puissant, bien plus mortel qu'autrefois. Or, on a quand même l'impression qu'il tue moins de gens. Le premier bombardement de Londres par les Allemands le 7 octobre 1940 a fait 500 morts et 1000 blessés. Je parle juste du premier, hein, la première nuit du Blitz. Celui de Coventry, le 4 novembre, 568 morts. Le bombardement de Tokyo, du 10 mars 1945, c'est 100 000 morts en une nuit. On a l'impression que ce sont des chiffres que plus aucune guerre n'atteint aujourd'hui.
Oui, alors il y a différentes explications. À nouveau, je dirais d'abord que dans l'ancien temps, du XXe siècle, je dirais, les bombardements, d'abord c'était pas totalement des missiles, à part les V1, V2 de l'Allemagne sur le Royaume-Uni, c'était des bombardements massifs. Vous aviez des centaines, sinon des milliers d'appareils, d'avions, bombardiers, qui lâchaient leurs tonnes de bombes sans discernement sur les villes. On ne se préoccupait pas du tout des pertes civiles. On disait qu'il y avait des militaires, oui, mais on tapait les villes. Et n'oublions pas quand même, rappelez-vous Dresde, en 1945, par des bombes au phosphore, dont on a un petit peu parlé pendant la guerre en Ukraine. 200 000 morts. On ne se posait pas trop de questions. Ça, c'est le premier point.
Ça, c'est encore vrai dans les bombardements du Vietnam du Nord par les Américains, par exemple.
Oui,
je crois que c'est la dernière fois où on fait ça.
Et la différence, finalement, l'analyse que je pourrais en faire, même si elle est forcément imparfaite, c'est que de l'armement indiscriminant, on est passé à l'armement discriminant. Il suffit de regarder tous les appels à l'aide du président Zelensky pour avoir de l'armement occidental qui est de haute précision. C'est-à-dire, sans avoir de chiffres exacts, mais quand aujourd'hui on tire avec un obus de César, ça compense l'équivalent peut-être d'une batterie d'artillerie complète et de plusieurs dizaines d'obus, car ça va directement au but avec une zone d'efficacité à quelques mètres près. C'est ce qui n'existait pas il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on ne pouvait pas dire qu'on tape à cet endroit-là d'une manière précise. Donc on arrosait, pardonnez-moi l'expression, on arrosait la zone pour être sûr d'avoir atteint son objectif.
Si je vous suis bien, général Chauvency, au XXe siècle, on a assisté tout au long du XXe siècle quasiment à une brutalisation de la guerre qui a tué de plus en plus de soldats et de plus en plus de civils. Et aujourd'hui, ce serait plutôt l'inverse en fait.
Alors, on a dit jusqu'à une quinzaine d'années que les principales pertes dans une guerre étaient civiles. C'était dans tous les documents de stratégie politique, je dirais même, en disant ce ne sont pas les militaires qui meurent à la guerre. Et moi, j'ai l'impression qu'on redécouvre dans la guerre en Ukraine que les militaires meurent à la guerre. Ce qu'on avait un petit peu oublié. D'abord, les pertes civiles, si on prend les chiffres rien que de l'ONU, sont insignifiants par rapport à tous les chiffres que vous avez énoncés il y a quelques instants. On parle de quelques milliers.
Oui, selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la guerre en Ukraine aurait tué 6 000 civils et fait 9 000 blessés parmi les civils. Et ça, depuis le début jusqu'au mois d'octobre.
Alors, si on prend les chiffres du président Zelensky sur Mariupol, on est à 20 ou 40 000 morts. Alors, vous voyez, la différence entre les chiffres et sur les appréciations. Alors, je ne pense pas que l'ONU soit mieux informée.
L'ONU dit même que c'est peut probablement sous-estimé.
Voilà. Donc, elle a des informations parcellaires. Maintenant, qu'on dise qu'il y a eu 20 à 40 000 morts à Mariupol, c'est une autre dimension. Il y a eu des morts en grand nombre, sans aucun doute, puisqu'il y a eu des combats dans la ville. Et c'est ça peut-être qui a changé dans ce conflit. On vient de réapprendre le combat dans la ville. Le combat dans la ville, ça veut dire que oui, il y a des civils qui sont partis. Mais il y a des civils qui sont restés et que les combattants s'installent dans les lieux civils. Ce qui explique d'ailleurs, à mon avis, une partie de ce qu'on a appelé crime de guerre en disant oui, les Russes ont tapé sur une école, ont tapé sur une maternité, ont tapé sur un immeuble. Il y a des images qui montrent qu'il y avait aussi des militaires dans ces lieux-là. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous n'avez plus un champ de bataille circonscrit comme on le faisait à l'ancienne, d'une certaine manière, mais il y a quand même un certain temps. Aujourd'hui, la bataille se fait dans la ville et donc au milieu de la population civile. Et donc, vous avez des pertes importantes, mais est-ce qu'elles sont aussi importantes qu'on le dit ? J'ai un doute. En revanche, moi, ce que je remarque, quand on voit tous les jours les chiffres annoncés, enfin pas tous les jours, sur le nombre de morts, bon d'abord, les Russes ne communiquent pratiquement pas. Mais du côté ukrainien, vous voyez, on est passé de 20 à 50 morts, un jour on est passé à 100 par jour, puis à 200, et puis maintenant on dit on n'en parle plus.
Maintenant, on dit 19 morts seulement après les
civils,
frappes massives.
Civils.
Et civils.
Et quand vous voyez la bataille de Kherson, même si on n'a pas beaucoup d'éléments, je doute fort qu'il n'y ait que 3-4 morts par-ci, par-là. Des morts au combat. Donc voilà, je dirais qu'aujourd'hui, on redécouvre dans cette guerre la mort au combat. Et je voudrais prendre un chiffre français. Nous avons fait pendant plus de 10 ans la guerre en Afghanistan contre les terroristes. 88 morts. 88 morts en plus de 10 ans. Quand vous voyez les chiffres annoncés en Ukraine, c'est le retour de la mort au combat. Sur le continent européen. Et ça, c'est un grand changement auquel on n'était plus du tout habitué, qui explique d'ailleurs les démarches et les enjeux pour nos armées, et notamment ce que disent nos chefs d'état-major, en disant maintenant, il faut se préparer, y compris à subir de lourdes pertes dans un combat dit conventionnel de haute intensité.
On fait une pause, François Chauvency, on se retrouve juste après.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes ce matin avec le général François Chauvency. On a vu qu'il était très difficile d'évaluer le nombre de morts civils et militaires dans un conflit comme celui qui a cours en Ukraine. Et qu'en est-il alors des pertes en matériel ?
Alors, les pertes en matériel, on redécouvre, ou peut-être d'ailleurs les Russes plus que d'autres, qu'à la guerre, le matériel peut subir une forme d'attrition. Voilà. Bon, et ce qui d'ailleurs fait beaucoup réfléchir nos états-majors, puisque quand on voit, je dirais, le taux d'attrition du matériel militaire blindé en particulier, qui devrait normalement survivre au champ de bataille en grande partie, on se pose la question. Nous, avec nos 200 chars dans l'armée française et quelques...
On tiendrait combien de temps ?
Pas longtemps. Hein, même s'ils sont très performants, s'ils sont très modernes, et qu'en face, là, on voit des chars très anciens, quand on regarde bien. Mais je dirais que on peut se poser la question sur, effectivement, cette attrition importante. Je dirais qu'on redécouvre à nouveau que sur le champ de bataille, il n'y a aucune arme décisive. toute arme amène, je dirais, sa contre-arme, que les Ukrainiens ont réussi parfaitement à neutraliser et à détruire le matériel ennemi, c'est une réalité, et que d'un autre côté, la tactique n'étant pas au point du côté russe, parce qu'il n'y a pas que l'équipement, si l'équipement est détruit, c'est qu'on n'a pas bien su l'utiliser. Et c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que les Russes ont bien su évoluer, manœuvrer, comme on dit dans le milieu militaire, avec leurs différents outils, instruments militaires, que ce soit des chars, que ce soit d'infanterie, que ce soit d'artillerie, que ce soit du génie. Et les quelques images, bien sûr, ça vient du côté ukrainien, mais néanmoins, elles sont intéressantes, ces images. Rappelez-vous cette colonne de chars, dès le début de la guerre, qui rentre dans un village, qui se fait détruire par des simples armes anti-chars. C'est ce qu'on apprend, c'est le béaba de ce qu'on apprend dans nos écoles. Hein. Et on voit une colonne blindée incapable de faire face, d'après les images qu'on nous montre. Donc, moi, je pose la question, ce n'est pas forcément l'équipement qui était déterminant. Je pense que l'équipement qui n'a pas été bien utilisé amène la défaite, ce qui veut dire que la tactique, c'est-à-dire comment utiliser ces outils, doit être assimilée, ce qui n'a pas été le cas manifestement de l'armée russe, à la différence de l'armée ukrainienne.
Alors, effectivement, pour estimer les pertes de matériel, il y a les images, aussi bien les images que nous envoient les Ukrainiens que les images satellites, hein, aussi, qui permettent de voir ce qui reste sur le champ de bataille. Mais les réserves, comment on fait pour les réserves? Comment on fait pour estimer les réserves? On nous dit en ce moment que les Russes n'auront bientôt plus de missiles, qu'ils sont en train d'épuiser leur stock. Comment on le sait?
Je pense qu'il y a beaucoup d'estimations qui sont faites dans des bureaux, et que ça, c'est une action de renseignement. Et que l'action de renseignement, notamment en Russie, a peut-être été déficiente depuis de nombreuses années, car on ne le voyait pas comme un ennemi potentiellement dangereux. On le voyait bien comme un ennemi, puisque vous reprenez le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013, qui commence à dire « oui, à l'Est, il faut quand même commencer à s'inquiéter ». Donc c'était il y a 9 ans. Donc on aurait pu supposer que tous les services de renseignement soient un peu plus actifs pour identifier en quoi consistait la menace et sur quoi s'appuyait cette menace. Et pour revenir à votre question sur les missiles, on peut même dire que depuis 7 mois, ça fait des mois qu'on nous dit que les Russes n'auront plus de missiles. On a vu en début de semaine que les missiles étaient toujours là. On nous a dit qu'il n'y aurait plus de microprocesseurs pour qu'ils puissent fonctionner. Les missiles sont toujours là. Alors il y a peut-être un peu moins qu'avant. Il y a une capacité aussi de production qu'il ne faut pas négliger. Quand on est en guerre, pour dire les termes, les choses telles qu'elles sont, comme la Russie, même si c'est une opération spéciale, elle est quand même en guerre. Il y a un moment où, quand le résultat n'est pas obtenu sur le terrain et qu'on voit justement que l'attrition du matériel et en munitions s'affirme, on commence à mettre l'économie en économie de guerre. Et je pense aujourd'hui, sans avoir de preuves particulières, que ça fait un certain nombre de semaines que les chaînes d'approvisionnement militaire en Russie ont commencé à se remettre en marche, à produire, ce qui néglige pas, qui n'efface pas non plus les achats à l'étranger.
On a quand même entendu des proches du Kremlin critiquer publiquement la tactique militaire russe sur les champs de bataille. Comment vous l'expliquez, vous ?
Alors, c'est une excellente question, parce que quand on entend le présentateur russe, qui fait son show tous les jours, il dit, oui, voilà tout ce qu'on peut dénoncer du mauvais fonctionnement de l'armée russe. Et ça se met sur la place publique, alors que pendant des mois, il n'y avait qu'un seul discours, c'est « la Russie va gagner, elle va écraser les Ukrainiens, nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus forts ». Et là, on a quand même ce doute qui apparaît, écran après écran, avec une forme peut-être de défaitisme, parce qu'effectivement, les résultats ne sont pas là. D'un autre côté, parler librement à la télévision d'État en Russie, ça me surprend un peu. Donc on ne peut qu'en déduire, ce n'est qu'une déduction, que si ce présentateur parle aussi d'une manière aussi virulente contre l'armée russe, c'est qu'on le laisse faire. Et qu'il sert à quelque chose. Autant critiquer les chefs militaires pour dédouaner le chef politique.
Ce serait la meilleure manière, au fond, de dire que Poutine n'y est pour rien.
Alors, c'est la première hypothèse. Il y en a une autre, il y a quand même une réalité. Reconnaissons quand même que toutes les images, même si ce sont des images bien diffusées, montrent quand même qu'on aurait fait une mobilisation d'une manière différente. J'ai connu encore l'époque où on mobilisait les réservistes à titre de l'entraînement. Je sais comment ça se passe. C'est pas ce que j'ai vu dans les images qu'on nous a présentées. Donc il y a forcément des déficiences au sein de l'armée russe. Mais je crois qu'il y a suffisamment de généraux qui ont été relevés de leur commandement pour montrer quand même que tout le monde n'a pas fait son travail et qu'il y en a qui, en temps de guerre, on les a mis à l'écart, on les a remplacés par d'autres. Ça ne veut pas dire qu'on aura la victoire, mais je crois quand même...
On a fait la même chose en 1914, nous. Hein.
Tout à fait. La le limogeage a du sens.
La plupart des généraux ont été limogés au bout de quelques mois.
Tout à fait. Le limogeage par le général Joffre, donc à Limoges, c'est d'où vient le mot, limogé. Donc c'est une bonne chose, mais c'est aussi une des premières victimes de la guerre. Il faut reconnaître que quand on est dans le temps de paix, l'avancement se fait d'une manière différente. Il n'y a qu'à la guerre, finalement, où on sait qu'une armée est bonne et où que les chefs sont bons. Et les deux ensemble, c'est mieux. Or, on a eu une armée russe qui s'est préparée pendant 10 mois, donc c'est peut-être bien préparé, je n'en sais rien. Mais le résultat sur le terrain à la guerre, ça montrait que son entraînement était mauvais, puisque la guerre ne la gagne pas. Donc l'entraînement, ce n'est pas la guerre. Et il n'y a que dans la guerre qu'on apprend à la faire.
Merci, général Chauvency. On fait une pause, on se retrouve juste après avec un politologue, c'est Olivier Roy.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Olivier Roy.
Bonjour.
Vous êtes politologue et dans votre nouvel essai, L'aplatissement du monde, qui vient de paraître au Seuil, vous expliquez que le point commun de tous les débats qui polarisent aujourd'hui la société française, c'est qu'on veut imposer de nouvelles normes, de nouveaux interdits, des règlements, des lois qui vont s'imposer à tous. Qu'on soit progressiste ou conservateur, dominant ou dominé, identitaire ou universaliste, woke ou anti-woke, que l'on soit au fond Sandrine Rousseau ou Marine Le Pen, on est d'accord sur rien, mais la réponse est toujours la même, on veut étendre le domaine de la norme.
Oui, parce que je constate que depuis, disons, quelques dizaines d'années, on ne partage plus une culture commune de l'implicite, c'est-à-dire que les choses ne vont plus de soi. Tout doit être dit explicitement, qu'il s'agisse de sexualité, qu'il s'agisse d'adhésion à certains principes, comme les valeurs de la République, par exemple, ou les valeurs de la laïcité, ou les normes religieuses, d'ailleurs. Il faut chaque fois faire une sorte de déclaration d'intention, dire explicitement ce que l'on pense, ce qu'on attend que les autres pensent aussi. Donc, mon point de départ, c'est ça. C'est cette crise de l'implicite, de l'évidence. Il n'y a plus rien d'évident. Hein. Et je pars, par exemple, de cette anecdote, qui est une simple anecdote, des gens qui montent dans les avions aux États-Unis avec des animaux de confort. Hein, alors, au début, c'est un petit chaton, puis après, c'est un chien, puis après, c'est un paon, c'est un coq, c'est un singe, etc., etc. Et les compagnies sont obligées de faire des règles. Bon, pourquoi ? Parce que ça ne paraît plus évident qu'il faut éviter de monter dans un avion avec un cochon, par exemple, voire avec un alligator.
Mais Olivier Roy, pendant un demi-siècle environ, après la Seconde Guerre mondiale, on a cessé d'étendre le domaine de la liberté, sur le plan politique, sexuel, économique, artistique. Et depuis, c'est le contraire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Qu'est-ce qui a changé ?
Alors c'est ça la grande question. À partir, disons, des années 45, ce sont la théorie des droits humains hein, qui se développe, s'impose, rentre dans les constitutions, rentre dans la loi. Et puis à partir des années 60, on voit apparaître la liberté sexuelle comme valeur, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle l'émergence de l'individu désirant qui remplace en quelque sorte, ou qui dépasse plutôt que remplacer, l'individu rationnel de la déclaration des droits humains. Et puis, à partir de là, on a donc, d'une part, un développement effectivement des libertés. On voit très très bien comment les nouvelles libertés sont petit à petit inscrites dans la loi, que ce soit l'avortement, la contraception, le mariage pour tous, etc., avec des hauts et des bas. Mais enfin, en gros, jusqu'à notre période actuelle, c'est une extension du domaine de la liberté. Mais en même temps, parallèlement, et non pas après cette extension, parallèlement, on voit une extension du domaine de la norme. Et donc, moi, je vois un lien entre les deux. C'est-à-dire que plus le domaine de la liberté s'étend, plus ça ouvre l'espace, je dirais, à de nouvelles formes de domination et de violence. On s'est aperçu assez rapidement que la liberté sexuelle, c'est pas l'harmonie des désirs, mais que c'est très souvent, au contraire, le conflit des désirs. Et en particulier, que ça ouvre un espace à une autre forme de domination masculine, beaucoup plus directe, de prédation, je dirais. Alors, pour contrer, il y a deux manières, si vous voulez, quand on s'aperçoit que on va vers des formes fausse liberté, c'est-à-dire où on est dans des situations de domination exacerbée. Il y a deux manières de gérer le problème. Une, c'est le conservatisme, le traditionnalisme, c'est-à-dire le retour en arrière. Voilà, il faut revenir à la religion, il faut revenir à la famille traditionnelle. Mais on s'aperçoit que c'est pas du tout ça qui s'est passé, en fait. On continue à, disons, étendre le domaine de la liberté, mais en même temps avec une demande de contrôle. C'est-à-dire que, par exemple, montrer un désir sexuel, etc., il faut être parfaitement explicite, il faut dire exactement ce qu'on demande, exiger le consentement éclairé du partenaire qui doit se répéter à chaque étape du rapport sexuel. C'est dans la loi californienne, par exemple, ça, et en Suède aussi. Et puis ça, on voit comment ça arrive dans les règlements des universités, par exemple, et des choses comme ça. Sur la citoyenneté, on demande maintenant des engagements où le citoyen doit signer, dire, alors en particulier évidemment l'immigré, doivent signer, dire, consentir aux valeurs de la République, par exemple, ou bien la charte de la laïcité, où le citoyen doit dire explicitement, reconnaître explicitement les valeurs de la laïcité, qui ne sont d'ailleurs écrites nulle part. Donc on n'arrête pas de signer des chartes, des consentements éclairés évidemment, et à être, disons, on a une bureaucratisation des relations sociales par ce simple fait de demande d'une explicitation permanente.
Olivier Roy, vous faites remarquer également que tous les mouvements aujourd'hui contestataires sont sur la défensive. Tout le monde se vit comme une minorité menacée.
Bon, il y a les minorités traditionnelles, les immigrés par exemple, les classes populaires, etc. Mais on voit maintenant les catégories dominantes se considérer comme étant elles-mêmes en minorité. Alors ça, c'est clair par exemple chez les chrétiens, et les catholiques en particulier, qui d'une part affirment que la culture européenne est chrétienne de par son origine, mais d'autre part considèrent qu'ils vivent aujourd'hui assiégés, menacés, dans une culture qui est avant tout païenne. On voit dans la théorie du grand remplacement donc une certaine catégorie dominante, celle de, en gros, l'homme blanc, se déclare être aujourd'hui en situation de minorité, et qui plus est de minorité menacée. On parle de la masculinité menacée, alors même que les féministes expliquent que les femmes sont une catégorie exploitée, opprimée. Donc tout le monde tient le discours de la minorité et le discours de la souffrance qui va avec.
On fait une pause, Olivier Roy, on se retrouve dans un instant.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec le politologue Olivier Roy qui publie « L'aplatissement du monde » aux éditions du Seuil. Vous dites que nous ne sommes pas dans une période de transition culturelle, comme on l'a dit souvent, mais de crise de la culture. Quelle est la différence pour vous ?
Alors, traditionnellement, je dirais, quand on a une crise d'une culture donnée, on a une espèce de transition et on arrive à une autre culture. Bon, la Révolution française a été une rupture brutale avec l'Ancien Régime, mais on voit comment s'est reconstituée une sorte de culture politique républicaine qui a duré jusqu'à maintenant. On voit comment le romantisme a apporté une nouvelle formulation littéraire un peu contre le classicisme lié à la monarchie, etc. De même, dans des relations beaucoup plus complexes et conflictuelles comme le colonialisme, on voit comment le colonialisme va acculturer, c'est-à-dire faire entrer dans sa culture des peuples dominants. Donc, jusqu'à maintenant, on a des transitions douloureuses, mais entre deux étapes, entre deux cultures. Et maintenant, et c'est ça mon hypothèse, qui est, je dirais, évidemment, une hypothèse, c'est que nous ne sommes pas dans le passage d'une autre culture. Nous sommes dans un système qui va rester un système déclaratif et normatif. Et on n'arrive pas à reconstituer un implicite partagé. Par exemple, on peut transformer la masculinité par une sorte de pédagogie, parfois pédagogie autoritaire, qui fait que les hommes vont spontanément, dans le fond, intégrer des formes de sexualité nouvelles qui vont permettre un épanouissement réciproque. Bon, j'ai des doutes. J'ai des doutes là-dessus. Je peux me tromper. En un sens, il vaudrait mieux que je me trompe. De même, en politique, on essaie de reconstituer un lien politique par la même forme de pédagogie autoritaire. Par exemple, en imposant les normes laïques dans les établissements scolaires. En disant, voilà, les jeunes n'ont pas compris ce qu'est la laïcité. On sait qu'ils comprennent pas. Et on le dit, bon, bah, alors on va leur expliquer et on va les former. Et s'ils refusent de se former, on va les sanctionner. On va les dénoncer. Par exemple, à la police, etc., etc. Et ça ne prend pas. Ça ne prend pas. C'est pas du tout comment ça se passe chez les jeunes. Alors, chez les jeunes, on voit aussi effectivement un changement des relations entre genres qui est très très net, mais qui vient d'eux-mêmes, qui n'est pas le résultat de cette pédagogie autoritaire. Et je vois cette difficulté de refaire culture, en particulier dans la question de la langue. Alors ça, c'est lié aussi à la globalisation. c'est qu'on parle une langue de moins en moins littéraire, pas parce qu'on est de moins en moins éduqué, formé, etc., etc., mais parce que on s'adresse à des interlocuteurs dont on n'est pas sûr qu'ils soient dans le même registre culturel que nous. Donc on va, en gros, simplifier spontanément son expression linguistique. Alors l'achèvement de ça, c'est dans ce que j'appelle le globish. C'est-à-dire, maintenant avec la globalisation, on développe une forme d'anglais qui n'est pas de le véritable anglais, parce que c'est un anglais coupé de la culture, de toutes les cultures anglaises, hein, que ça soit britannique ou américaine, et on va utiliser un vocabulaire qui met de côté tout ce qui est spécifiquement culturel à un peuple ou à une langue donnée, etc., pour être dans la pure communication.
Pour vous, Olivier Roy, après avoir lu votre livre, j'ai l'impression que, à vos yeux, au fond, c'est le conformisme qui est le grand vainqueur de tout ça.
Oui, parce qu'à partir du moment où on supporte de moins en moins qui est, je dirais, le mystère de la personne, hein, qui est quelque chose qui échappe aussi bien à la loi qu'à l'expression, qu'à l'art, etc., ce qui s'échange, c'est ce qui se ressemble. C'est un espèce de marché, dans le fond, une espèce d'égalisation des marchandises qui circulent. Alors, par exemple, les émotions, c'est pourtant quelque chose qui est très personnel. Eh bien non, maintenant, les émotions, on doit les exprimer à partir d'une liste finie d'émoticônes et d'émotis. C'est-à-dire, vous devez désigner l'émotion que vous éprouvez à un moment donné. Ça n'est plus à l'autre de la sentir, de la percevoir. Ça n'est plus, si vous voulez, une relation entre deux personnes où se jouent des émotions. C'est un échange de tickets, de jetons, de billets. Je t'envoie mon émotion, tu me fais rire aux larmes, ou mon émotion, je pleure, ou mon émotion, je ris et je pleure en même temps, etc.
Au fond,
donc
c'est...
on voit que des choses qui, normalement, ne pourraient pas être calibrées, sont effectivement calibrées, égalisées, et ça donne un espèce de conformisme par l'échange.
Et c'est ça, au fond, l'aplatissement du monde.
Oui, c'est ça. C'est un espèce d'espace où tout est marchandise échangeable. Ce qui explique pourquoi cette rupture, je dirais, dans la notion de culture va très très bien avec le néolibéralisme, qui est la marchandisation de ce qui ne se marchandisait pas autrefois, où tout d'un seul coup vaut quelque chose, même si ça vaut strictement rien. Et cette marchandisation systématique va aussi avec un prix à payer pour les émotions. C'est-à-dire le fait, par exemple, que les tribunaux, de plus en plus, prennent en compte les victimes, ce qui est normal, on dirait, mais où la souffrance de la victime va devenir la mesure de la faute de celui qui a commis le crime ou le délit. C'est-à-dire qu'on a une espèce de glissement dans la vision juridique des sociétés, où le crime n'est plus un acte contre la société, et donc un acte qu'il faut condamner parce qu'il met en cause le lien social, mais où le crime devient une espèce d'intrusion dans le psychisme d'une personne. Et il faut alors punir pour compenser également. Je ne condamne pas forcément ça, parce que dans le système français autrefois, on ne prenait pas du tout en compte la souffrance de la victime. Mais maintenant, on voit comment cette souffrance est en train de devenir plus importante que la question du lien social, de la mise en cause du lien social par le crime.
Merci Olivier Roy, je renvoie à votre livre « L'aplatissement du monde » qui vient de paraître aux éditions du Seuil. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Catherine Millet.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Catherine Millet.
Bonjour.
Vous êtes la directrice d'Art Presse, la revue française de référence sur l'art contemporain qui fêtera en décembre son 50e anniversaire avec une soirée au Centre Pompidou.
Ouais, le 16 janvier, on
enchaînera. Le 16 janvier, ouverte à tous.
À tous.
Et dans votre nouveau livre, Commencement, qui vient de paraître chez Flammarion, vous racontez votre jeunesse, vous avez eu 20 ans en 1968, et vos débuts dans le monde de l'art contemporain à la fin des années 60, à une époque où l'on ne parlait pas encore d'art contemporain, hein, on parlait de l'art d'avant-garde.
Ouais, c'était les avant-gardes, ouais, on parlait comme ça. Ouais.
Oui, c'est assez drôle parce que c'est un mot qui revient constamment dans votre livre, alors que c'est un mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, je pense que c'est ça toute la différence entre les avant-gardes et puis l'art contemporain. L'art contemporain, ça veut dire que c'est l'art de notre époque, quoi. On l'accepte comme ça. Tandis que les avant-gardes, c'est ce qui nous projetait en avant. Donc, on pourrait considérer que si on ne parle plus d'avant-garde, c'est parce qu'on ne se projette plus tellement en avant.
Oui, parce que vous expliquez bien que pour vous, l'avant-garde, c'était ce qui serait admiré de tous à l'avenir, ce qui serait dans les musées.
Oui, alors... Mais une fois que c'est dans les musées, c'est plus tout à fait la même chose, c'est de l'art contemporain.
Mais j'irais même plus loin. J'ai l'impression que vous étiez un peu jaloux, je dis vous, mais je pourrais dire de Daniel Templon, qui est un personnage très important du livre.
Bah oui, on vivait ensemble, voilà. On a fait les choses ensemble.
Il ouvre sa première galerie, vous êtes là, évidemment, ouais. Rue Bonaparte. Mais on a l'impression que vous étiez un peu jaloux de vos découvertes, que vous n'étiez pas pressé, que tout le monde les admire. Vous aviez un peu peur que ça se galvaude, au fond.
Non, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ah, non, sinon j'aurais pas fait le métier que je fais, c'est-à-dire de justement aider à faire connaître ces avant-gardes.
Le plus grand nombre, c'est...
Le plus grand nombre, c'est pas le plus grand nombre qui me gêne, c'est, je dirais, c'est les... J'ai pas envie de dire les plus riches non plus, mais enfin c'est ceux qui se servent de l'art pour comme d'une valeur financière. C'est ça qui pollue aujourd'hui un petit peu l'art, ce qu'on appelle donc maintenant l'art contemporain. C'est
Est-ce ça que ça n'est pas aussi l'idée que ce qui est précieux est réservé à un tout petit nombre?
Non, moi j'ai jamais considéré comme ça. En fait, c'est vrai qu'on n'imaginait pas, voilà, que cet art qui en effet était assez confidentiel, et même la démarche des artistes était confidentielle. Quand vous receviez, comme je le raconte, une enveloppe envoyée par Christian Voltanski, il avait dû en envoyer quelques centaines d'exemplaires, vous l'ouvrez, vous trouvez une petite mèche de cheveux, enfin, c'est assez confidentiel, c'est comme si voilà, votre grand-mère vous envoyait la mèche de cheveux de votre grand-père, enfin, bon, ça fait un peu bizarre. Bon. Donc c'était dans ces dimensions-là qu'on travaillait. Alors, c'est vrai que ça concernait quand même un certain nombre de gens qui formaient une sorte de famille. Ouais, ça c'est vrai. C'était une sorte de famille et il y avait une complicité et je crois une complicité fondée sur sur des valeurs communes et sur beaucoup d'amitié d'ailleurs entre ces gens, beaucoup de solidarité. Bon, on n'imaginait pas que ça allait s'étendre comme ça s'est étendu. Et là, évidemment, les paramètres changent. Et là, ça pose d'autres questions. Moi, ce que je regrette souvent, c'est que on puisse pas donner au plus grand nombre, comme vous dites, les outils pour accéder justement à une pleine compréhension de certaines de ces œuvres qui sont des fois un petit peu déroutantes, mais qui sont faites pour ça en même temps.
Oui, et à l'époque d'ailleurs, vous n'aviez pas non plus ces clés de compréhension, hein, puisque vous décrivez l'art un peu comme un terrain vague. Alors, il n'y avait pas d'argent à l'époque.
Non, il n'y avait pas d'argent.
Voilà, c'était pas la pop culture. Et au fond, ce qui vous intéressait, c'était tout ce qui était nouveau. Alors, aussi bien les romans d'À la robe grillée, comme La maison de rendez-vous, ou Le tombeau pour 500 000 soldats de Pierre Guyotat, ou le free jazz de Cécile Taylor, au fond.
Ouais, ouais, ouais.
Tout ça, c'était l'avant-garde.
Oui, bien sûr, c'était tout ça, c'était, on pouvait l'imaginer dans un même état d'esprit. Moi, je dis à propos de cette époque que c'était l'après-après-guerre, c'est-à-dire que beaucoup de ces gens étaient nés soit pendant la guerre, soit juste après la guerre, c'était mon cas. Et en fait, on se trouvait dans une situation où on repartait de pas grand-chose. En effet, de ce qu'on trouvait, comme certains sur le bord d'une plage, d'autres dans un terrain vague, et on bricolait des œuvres, enfin, ils bricolaient des œuvres à partir de ça. Il n'y avait plus ce sentiment de souffrance ou parfois de ressentiment qu'on pouvait éprouver après la guerre pour ceux qui étaient justement l'avaient connu vraiment en tant qu'adulte cette guerre. Nous, on arrivait là et on n'avait pas d'héritage spécial et pas de voilà.
Oui, on a l'impression que vous ne connaissiez pas l'histoire de l'art. Vous n'en connaissiez que quelques bribes datant du XXe siècle. Bah, Marcel Duchamp, Jackson Pollock, alors, Yves Klein, Lucio Fontana.
Ça, c'est mon cas à moi, c'est-à-dire que je suis tombée là-dedans. Presque par hasard, j'ai pas fait d'histoire de l'art. Bon, mais enfin, je suis pas toute seule parce que toute cette génération, beaucoup d'artistes n'étaient même pas passés non plus par les écoles d'art. On arrivait là-dedans avec notre candeur, notre naïveté et notre ignorance, il faut dire. Bon, mais l'ignorance, quand même, moi et d'autres, je sais pas, on était sérieux, on essayait de.
Ah, vous avez bossé.
On a bossé quand même, oui.
Mais vous racontez bien à quel point les œuvres qui vous plaisaient à cette époque, les œuvres étaient muettes. Le spectateur était prié de se débrouiller comme il pouvait.
Ouais, c'était
fond,
une sorte de provocation,
elle
de défi.
Elle ne disait rien, elle n'avait aucune fonction.
Pour certaines, Ouais, pour certaines, elles étaient justement faites pour vous déstabiliser. D'ailleurs, je pense que ça joue encore beaucoup pour certaines œuvres. Alors, bon, moi, il y a une chose, de toute façon, en tant que critique, que j'ai jamais défendue, c'est l'art qui prétend transmettre un message. Vous voyez, vous expliquez que la guerre, c'est pas bien, par exemple, faire du mal aux femmes non plus. Bon, donc, tout ça, mais enfin, moi, ça me suffit de lire les journaux pour l'apprendre. Enfin, d'ailleurs, même ma morale me l'enseigne suffisamment comme ça. Bon, non, moi, je pense plutôt que les œuvres d'art, aujourd'hui, c'est fait pour, au contraire, que vous vous remettiez en cause à « Ah bon, moi j'ai toujours considéré que ça c'était beau, ben non, peut-être que la beauté ça peut être autre chose, peut-être que je peux réviser justement certaines idées que je peux avoir sur mes contemporains, sur, voilà, enfin, sur le monde en général. » Je crois que c'est fait pour justement remettre en cause toutes les certitudes.
À l'époque, on est donc à la fin des années 60, hein, c'est là que se situe essentiellement commencement.
Début des années 70.
Le début des années 70, mais vous écrivez, Catherine Millet, que chaque fois que vous poussiez la porte d'une galerie d'avant-garde, il s'y trouvait quelque chose que jamais personne auparavant n'avait présenté dans un lieu consacré à l'art, ni imaginé que ce fût possible de l'y poser. Ça, c'est véritablement une caractéristique de cette époque-là.
Oui, oui. Après, on s'est habitué à voir... avoir un tas de gravats dans une galerie d'art, par exemple. Mais je raconte très précisément la fois où j'ai poussé la porte de la galerie Yvon Lambert, qui est une galerie très, très importante, justement, pour l'avant-garde, et où je voyais rien, j'ai rien vu. Et en fait, ce qu'il y avait à voir, c'était que l'artiste avait sorti les fils électriques du mur, c'était Alain Jacquet. Et je raconte que même le marchand, Yvon, qui était un ami, est venu me dire, comme ça, il était... J'avais du mal à interpréter son comportement, parce qu'il me disait, oh là là, tu sais, les gens rentrent et pensent qu'il n'y a rien à voir. Bon, c'était une façon de me signaler que quand même, il fallait que je sois attentive et que je vois les fils électriques.
Mais, effectivement. Mais l'art, dites-vous, se voulait aussi réel que la vie. Et au fond, il s'insinuait dans la vie.
Oui, d'une manière... comme je l'ai raconté là à l'instant à propos de la petite enveloppe que vous receviez par la poste de Christian Boltanski, ça se mêlait, voilà, à votre vie quotidienne, ça vous prenait d'une manière un peu par surprise quand même. Bon, voilà.
Mais est-ce que ça vous prend encore par surprise aujourd'hui, 50 ans plus tard? J'ai l'impression que vous devez vous ennuyer un petit peu, non?
Oui, je m'ennuie un peu, ça c'est vrai.
Galeries. Parce que tout s'est fait à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne fait dans la plupart du temps que se répéter.
Alors... Oui, ce qu'il y a, c'est que le paradoxe, c'est que ces œuvres ont fini par fonder une tradition, finalement, qui est reprise par un certain nombre de gens, enfin d'artistes plus jeunes. Et un autre paradoxe, peut-être, c'est que, en ce moment, en tout cas, on voit peut-être beaucoup plus le retour de pratique de la peinture, au sens traditionnel, et que là, ce qui étonne, c'est que, on renouvelle le genre, enfin, on renouvelle la pratique. Moi, par exemple, je vous donne un exemple très simple, c'est que bon, je me suis longtemps intéressée, je m'intéresse encore au minimalisme, à tout ce qui est géométrique, très, très épuré, comme ça. Et franchement, dans ce domaine-là, on pouvait penser que tout avait été dit. Et puis, on voit apparaître des gens qui ont une nouvelle façon de pratiquer la géométrie, par exemple. Finalement, en allant piquer des trucs dans l'environnement quotidien, en les interprétant d'une manière abstraite. Bon, et ça, c'est très nouveau. Et moi, c'est maintenant comme ça que je suis encore surprise.
Merci, Catherine Millet. Voilà,
merci
si on veut savoir
vous.
Comment tout ça a commencé, parce que c'est une aventure, hein, l'art contemporain, il faut lire Commencement, ça vient de paraître chez Flammarion.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, c'est terminé. C'est arrivé demain, c'est demain. Et Pierre de Villeneuve me fait un grand sourire. Ça veut dire que les grandes voix, c'est dans un instant. Pierre, quel sera le programme?
Eh bien, on est dans du Marcel Duchamp quand on pense à la crise des carburants. Parce que d'un côté, on a des syndicats qui disent oui, d'autres qui disent non. Donc il y a un côté absurde dans tout ça. Il y a la crise à l'Assemblée nationale aussi. Et puis on va parler de l'Ukraine. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette déclaration d'Elon Musk qui dit qu'il n'a plus d'argent pour financer l'internet ukrainien. Donc là, évidemment, une nouvelle donne se joue.
Bonne émission.
Merci.